Et avec Léa Salamé, notre invité ce matin est ancien président de la République. Appelez-nous, intervenez, 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. François Hollande, monsieur le président, bonjour.
Bonjour.
Les obsèques de Jacques Chirac ont lieu tout à l'heure. Vous serez à l'église Saint-Sulpice où sont attendus actuels et anciens chefs d'État étrangers, les prédécesseurs Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy et bien sûr le président de la République Emmanuel Macron. Sur Jacques Chirac, François Hollande, beaucoup de choses ont été dites depuis jeudi sur tous les aspects de la vie d'un homme et de la vie d'un homme politique. Mais vous, François Hollande, s'il ne devait y en avoir qu'un, quel souvenir garderiez-vous de Jacques Chirac ?
Peut-être le premier et le dernier. Le premier, c'est lorsque je l'ai vu pour la première fois. Je le voyais bien sûr à la télévision. Quand je l'ai rencontré, je ne l'ai pas reconnu. Tellement il allait vite. Tellement il était dans un nuage de fumée, dans des salles obscures de militants qui se pressaient les uns contre les autres. Et puis, cette énergie qu'il déployait, j'étais candidat contre lui, c'était en 1980, j'avais 26 ans, c'était une figure assez insaisissable, à tous les sens du terme, y compris sur le plan politique. Et puis la dernière, qui est une image d'un homme qui est... en grande souffrance, qui s'est coupé du monde et qui attend. Il ne sait pas ce qu'il attend, sûrement la mort, mais il n'en a pas forcément la conscience. Et qui est devenu un homme dont le seul pouvoir est la sagesse, donc et le repli. Et c'était assez extraordinaire de voir que la ferveur populaire est à l'égard d'une personne qui n'a pas toujours été aimée pendant toute sa vie politique, loin de là, qui a cherché à être aimée. On n'y arrive pas toujours, et qui avait disparu des écrans, des micros, et qui était encore dans le cœur des Français. Donc je pense que ces cérémonies que l'on peut toujours trouver longues, excessives, non, elles permettent au peuple français de rendre hommage à l'un de ses anciens présidents sûrement, mais d'un de ses amoureux transis qui retrouve enfin l'affection d'un peuple qu'il a aimé.
Son biographe qu'on a reçu vendredi matin disait combien l'après-pouvoir avait été difficile pour Jacques Chirac, combien c'était le vide, l'ennui, combien c'était difficile à vivre. Vous comprenez ça, c'est des sentiments qui ont pu vous traverser ?
Oui, moi je l'ai vécu aussi. Chaque départ de l'Élysée, quel que soit le temps que l'on est resté, lui était resté 12 ans. Et c'était plus que le temps élyséen, c'était...
C'était 40 ans de campagne, quoi.
Exactement, 40 ans de palais officiel, 40 ans de vie exerçant des mandats importants, Premier ministre, maire de Paris, etc. Et d'un seul coup, plus rien. D'un seul coup, le repli dans une sphère privée, familiale, la maladie et sentiment de ne plus avoir d'amis. C'est-à-dire ce qui nous a rapprochés, puisqu'on était en 2007 et que c'était tellement vu dans les périodes où il était en responsabilité, moi aussi, à un autre niveau, eh bien, on avait envie de se parler.
Et donc quoi, vous déjeuniez ensemble vous
Oui, ça nous est arrivé plusieurs fois. Il faisait peu de confidences au sens où il livrait pas de secrets, mais il décrivait des personnes. Poutine, Berlusconi. Sa description de Berlusconi restera longtemps gravée dans ma mémoire.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Ce qu'on peut imaginer de Berlusconi, mais qu'on peut pas dire. Donc voilà, il avait cette volonté de non pas de prolonger ce moment. Il était très lucide qu'avec les Russes, c'était très bien dit. Il faut parler. Il faut toujours parler. Mais il faut savoir que tout est rapport de force. Et si l'on oublie la question du rapport de force, c'est de la naïveté. Alors, voilà, moi j'ai connu cette période avec Jacques Chirac où il souffrait et de sa maladie et de cette solitude inévitable après une période de pouvoir et aussi, sûrement, d'une politique qui n'était déjà plus la sienne. Mmh.
Tout change, donc, vous l'avez dit, hein, dans ces années-là, vos relations avec lui, à tel point que en 2012, il va dire qu'il va voter pour vous à la présidentielle et non pour Nicolas Sarkozy. C'était quoi, selon vous, François Hollande, de la camaraderie corrézienne ou tout simplement de la haine pour votre adversaire de l'époque ?
Oui, je me suis longtemps posé cette question après, parce que je me la suis pas posée ni avant ni pendant. Avant, on avait cette relation de complicité, de solidarité corrézienne, qui était devenu une forme d'affection, et pour ce qui me concerne, de respect, parce que c'était un ancien président qui avait beaucoup de choses à dire et à confier. Il avait fait un livre, d'ailleurs, pour le faire. Et puis, il y a cette cérémonie, on va dans un musée, le sien, et on passe un bon moment, un long moment, et avec un long déjeuner, ce que le déjeuner peut parfois comporter. Et à la fin du repas, ils disent, je crois, ce qu'ils pensent, c'est-à-dire qu'ils auraient voulu voter Juppé. C'est Juppé son candidat. Mais Juppé ne peut pas être candidat. Et il dit, il me confie, et à ceux qui étaient autour
de lui. Devant les caméras.
Voilà. Alors, je vais voter Hollande. Pardon de parler de moi, la troisième personne, mais c'était le cas. Et je suis assez gêné pour lui. Parce que je lui dis, mais attention, il y a des caméras, ce que vous pouvez peut-être dire là, en privé, pas forcément souhaitable de le dire en public pour vos proches. Et c'est là qu'il fait par bravade cette déclaration, parce qu'il s'adresse à la caméra. Mais moi, j'ai pas voulu instrumentaliser ce moment, parce que ça ne me paraissait pas digne, mais c'était à l'évidence un élément de sincérité dont il n'a pas mesuré, je crois, dans sa situation, l'impact qu'il pourrait avoir.
Et il vous l'a confié, il vous a dit qu'il avait voté pour vous à la fin ?
Je ne sais pas ce qu'il a voté à la fin.
Vous dites votre complicité avec Jacques Chirac, ça n'a pas toujours été le cas à François Hollande. On se souvient de votre guerre fratricide, vous avez été un de ces grands opposants, à la fois en Corrèze, à la fois comme premier secrétaire du PS, et de vos déclarations. Un rentier de la politique, survivant avec les siens, gérant ses propres clientèles, veillant à sa protection personnelle, voilà ce que vous disiez de lui. Ou encore, Jacques Chirac est un président de circonstance qui exerce avec inconstance le pouvoir depuis 1995. Vous n'y alliez pas avec le dos de la cuillère, c'était pas très complice.
Non, mais c'était la vie politique, et il le comprenait parfaitement, ce rôle qui était le mien, d'être l'opposant. Il était président, avant il avait été Premier ministre, et ça a été surtout vrai pendant la période où, en cohabitation, donc Jacques Chirac président, Lionel Jospin Premier ministre, c'était à moi que revenait cette tâche d'attaquer celui qui mettait quand même un certain nombre de difficultés au gouvernement. Et un jour, on s'en est expliqué. Il m'a dit, vous savez, moi j'ai été extrêmement dur avec François Mitterrand. J'ai mené ce travail-là sans relâche à partir de 1974 jusqu'à 1980. 15 en réalité, et j'ai toujours respecté la personne de François Mitterrand, et vous me respectez, et on peut trouver là des formes de convergence, de concordance. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu être dur, il a pu l'être à l'égard de François Mitterrand, mais j'ai toujours été respectueux de l'homme.
Vous dites que vous étiez dur parce que c'était la politique, parce que c'était ainsi, parce que vous étiez l'opposant numéro un et qu'il fallait taper, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi des raisons de fond? Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que vous retenez de la politique, du bilan politique de Jacques Chirac maintenant? Est-ce que vous retenez le discours du Veldiv, le non à la guerre d'Irak, l'intuition écologique, ou alors l'immobilisme de ces 12 dernières années? Cette décennie ennuyeuse, qu'on peut dire, comme on peut dire certains, le roi fainéant par exemple, qu'est-ce que vous retenez sur le fond ?
Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit.
Hein. Non, c'est Nicolas Sarkozy.
Ce que je retiens d'un homme sur une carrière aussi longue, c'est qu'il a fluctué, et qu'il y a eu plusieurs temps de Jacques Chirac. J'ai connu, quand j'ai été candidat contre lui, le Jacques Chirac, plutôt méfiant à l'égard de la construction européenne, utilisant des arguments souvent très droitiers pour faire concurrence à Giscard d'Estaing, et n'inventant que des formules pour montrer qu'il pouvait être plus social, le fameux travaillisme à la française. J'ai vu Jacques Chirac, 86-88, Premier ministre libéral, se réclamant de Thatcher et de Reagan. Et puis, j'ai vu aussi un homme capable, et je crois que c'est ce qui a tout changé, en 1995, de se rendre compte que ce qu'il avait de meilleur était en lui. C'était pas chez les autres. Pendant toute cette période, il a essayé de prendre des modèles, alors ça devait être des modèles à un moment allemand, britannique, américain, ou des modèles politiques. Il a été à un moment très fasciné par Giscard d'Estaing avant de rompre avec lui. Et il a été convaincu qu'Édouard Balladur était un homme loyal. Puis un jour, il s'est rendu compte que, en réalité, son talent, sa force, elle était en lui. C'est à ce moment-là que l'image que l'on a eue de Jacques Chirac a changé. Comment celui qui parlait par phrases saccadées comme des tirs qu'il envoyait sur ses adversaires est devenu un homme sage, un grand-père apaisant. Alors là, on a dit, il est redevenu radical. Non, il était républicain. Et c'est ça qui, à mon avis, a fait son élection en 95 et aussi sa réélection en 2002 et qui fait aujourd'hui sa popularité. Parce que effectivement, il a fait des choix qui n'étaient pas ceux de son camp. L'abolition de la peine de mort, l'IVG, le Veldiv, la lutte contre l'extrême droite, l'intransigeance. Il les a montrés, pas simplement pour provoquer, non, parce qu'il le ressentait.
Vous dites républicain, François Hollande, mais pas de droite.
Si, je pense que
son camp... L'était-il, il y a débat là-dessus. Toute sa vie et depuis...
Non, mais son camp, c'est la droite. Mais sa famille, c'est la République. Et c'est ce qui fait la différence. Il est un des chefs de la droite française pendant des années. Et même en 1995, quand il est élu, c'est dans une forme de débat à droite. Mais sa famille de pensée n'est pas la droite. Sa famille de pensée, c'est la République. Ce qui va faire qu'il va partager des valeurs avec la gauche. Et parmi ces valeurs, il y a la laïcité. Parmi ces valeurs, il y a la dignité humaine. Et puis, parmi ces valeurs, il y a aussi une politique étrangère qui est une politique de non-alignement. Et c'est ce qui fait que, quand il prend la décision de ne pas intervenir en Irak, et souvenez-vous, c'est le premier qui avait marqué sa solidarité avec les Américains après le 11 septembre. Tout le monde s'attend à ce qu'il puisse suivre Bush. Il ne le fait pas. Et il ne le fait pas en prenant conscience que c'est pas simplement pour la France, une forme de protection, c'est aussi pour éviter le désordre du monde.
Alain Juppé, Dominique de Villepin, qui était vendredi dans ce studio, François Hollande, disait que Chirac était un homme beaucoup plus complexe, beaucoup plus tragique peut-être même, que l'image qu'il cultivait et renvoyait volontiers au public. Est-ce que vous l'avez vu, vous, cette complexité, cette part d'ombre ?
Ça peut paraître étonnant, mais je ne suis pas sûr que le destin que voulait Chirac fût d'être un homme politique.
Ah ouais?
Alors que nous pensons tous qu'il est né pour ça, qu'il avait toutes les qualités pour ça. Je crois qu'il se serait vu une vie de haut fonctionnaire ou de dirigeant d'entreprise publique, maniant de grandes causes pour la construction ou pour le transport. C'était ça ce qu'il animait. Et puis, vous savez, il y a des circonstances, il rentre au cabinet de Pompidou, ne connaît pas Pompidou, et il se retrouve candidat en Corrèze. Il aurait pu être battu en Corrèze. Je parle de sa première élection en 1967. Il n'est élu que de quelques voix. Et ça m'est arrivé aussi. Vous dites, mais si ça avait été l'inverse, si les 200 voix que j'ai eues, qui m'ont permis d'être élu, ça avait été 200 voix qui m'auraient manqué, qu'est-ce qui se serait passé? Si Chirac est battu en 1967, on peut faire des comme ça des
c'est la balle de tennis dans le film de Woody Allen, ça tombe à droite ou à gauche.
Vraisemblablement, il est nommé directeur d'administration centrale et il ne fait plus jamais de politique. Mais il se trouve qu'il fait de la politique parce qu'il est élu et donc ça va l'emmener beaucoup plus loin qu'il ne l'avait imaginé. Et cet homme qui est effectivement plus complexe, il ne parle jamais de lui. Il est très secret, il ne veut pas s'exhiber. Il est assez gêné. C'est pour ça que l'aspect extérieur qu'il donne est très différent de l'aspect privé. On dit souvent, et ce ne veut pas que pour Chirac, certains hommes ou certaines femmes politiques sont très, très durs en public et très agréables en privé. Ben lui, c'était ça. Et le jour où il est apparu en public comme il était en privé, il a gagné.
Le chiracisme, n'est-ce pas, en dernière instance, vous le disiez, le refus de toute forme de compromission entre la droite républicaine et l'extrême droite. François Hollande, ce week-end s'est déroulée une convention de la droite autour de Marion Maréchal Le Pen, marquée par des discours anti-islam et anti-immigration très décomplexés, on va dire. Édouard Philippe a condamné des discours nauséabonds, s'est dit frappé par la violence et la tonalité des propos prononcés notamment par Éric Zemmour. Au moment où disparaît Jacques Chirac, est-ce que vous diriez que ce rempart, ce mur entre la droite et l'extrême droite est beaucoup plus poreux aujourd'hui ?
Il n'y a pas que le mur entre la droite et l'extrême droite qui est poreux. Il y a le mur dans les médias qui est poreux.
C'est-à-dire ?
Vous me parlez d'Éric Zemmour. Il travaille dans des organes de presse, et pas n'importe lesquels. Et si l'on pense qu'il tient des propos qui dépassent toutes les limites et qui franchissent toutes les digues, Il y a bien un moment où il faut prendre des responsabilités.
Ça vous choque qu'il travaille toujours au Figaro, qu'il va bientôt travailler dans une chaîne d'infos?
Moi, je suis libre d'acheter ou de ne pas acheter ces journaux, de les écouter ou de ne pas les écouter. Donc, moi, je n'ai pas à porter de jugement. Je fais mon choix quotidien. Mais pour des organes de presse, il faut quand même se poser cette question. Parce que ce n'est pas n'importe quel propos qui a été prononcé. Des propos qui, parfois même, ont été condamnés, pas simplement moralement, mais sur le plan judiciaire. Donc voilà, on s'est habitué, on a toléré des sorties, des jugements, des diatribes. Il y a même des émissions à la télévision qui sont organisées pour qu'il y ait ce type de polémique.
Ça s'appelle...
L'outrance, elle a été introduite dans le système médiatique. Je ne dis pas dans le système politique. Vous voyez, c'est plus grave. L'outrance, elle fait partie du jeu. C'est pas drôle de faire débattre deux modérés, un de gauche, un de droite. Bon, ça suffit. On dit, mais c'est fini, c'est la vieille politique, ça. Il faut en finir avec ça.
Alors donner la parole à Zemmour, c'est aussi la liberté d'expression. C'est aussi qu'il représente un certain courant de pensée qui existe aujourd'hui.
Au contraire. Dans ce moment-là, ça s'appelle faire de la politique où on va dans les émissions où on est invité. C'est pas tout à fait la même chose. Hein, on est à ce moment-là un acteur politique. Mais, je crois que là, il y a quand même...
quelque chose qui vous inquiète, là, dans l'état de l'espace public
malgré
aujourd'hui
tout, il y a une banalisation du pire. Il y a une banalisation de l'extrême. Il y a une banalisation de l'outrance. Il y a une banalisation du mépris à l'égard d'une partie de la communauté nationale. Donc c'est ça qui me gêne. Et parce que finalement, il y a 20 ans ou 30 ans, il y avait des personnes qu'on n'invitait même pas à la radio et à la télévision. Aujourd'hui, c'est elles qui sont les plus nombreuses à y venir.
Non, mais c'est toujours la même question, c'est si on les invite pas, on les fait monter. Si on les invite, on les fait monter.
C'est
piégeux dans les deux cas, François Hollande.
Je pense que les médias doivent inviter toutes les personnalités qui font partie du débat politique. Après, est-ce que dans les médias, il doit y avoir ces personnes-là? Ça, c'est quand même... Il y a un petit livre qui s'appelle « Récit d'ivre » de Foissel. Il faut surtout pas faire des comparaisons.
Le philosophe.
Mais on a connu ça dans l'entre-deux-guerres, où il y avait dans les journaux des gens qui tenaient des propos, prenaient des positions qui n'avaient plus rien à voir avec ce qu'était le débat, le commentaire et l'information.
Donc il faut interdire.
Non, je crois qu'il ne faut pas interdire. Il faut dire que chacun doit être à sa place et qu'il y a des règles qui doivent être posées pour la politique. Vous invitez tout le monde, c'est bien. Et que dans les médias, il faut faire attention.
On passe au standard de France Inter, où nous attendent un certain nombre d'auditeurs nombreux. Bonjour Mathieu.
Ah oui, bonjour Monsieur Hollande. Bonjour France Inter.
Bonjour.
J'aurais voulu savoir si quelque part vous regrettiez un petit peu l'époque de la politique française gauche-droite. Et est-ce que vous n'étiez pas, dans un sens, ravi d'avoir quelqu'un qui a réussi à mettre ensemble centre-gauche et centre-droite pour réussir les réformes françaises dont on a besoin, là où M. Hollande ou M. Sarkozy avaient un petit peu de mal pour faire passer ce genre de réformes. Mmh. Alors, merci.
Merci Mathieu. François Hollande vous répond.
Oui, c'est une question importante. Je suis effectivement convaincu qu'il n'y a de démocratie que si il y a contradiction et que si il y a débat entre la droite et la gauche, alors avec les différentes sensibilités au sein de ces deux mouvements. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas à un moment se retrouver sur des causes communes et faire un chemin ensemble? Ben, prenons l'exemple de Jacques Chirac. Et de moi-même. Il était donc plutôt du centre-droit, au moins dans ses soutiens. J'étais du centre-gauche ou de la gauche. Et sur des questions comme la laïcité, comme l'Europe, comme l'écologie, on était capable de se retrouver. Et c'est bien qu'il en soit ainsi. Mais si on efface toutes les lignes, si on supprime tous les clivages, si dans la démocratie, il n'y a plus rien que le oui ou le oui-mais, ou le pire, bien, le risque, je l'évoquais tout à l'heure, c'est que le pire finisse par être la seule alternative. Donc il faut à la fois de la confrontation et aussi du consensus.
Oui, mais la question de notre auditeur, elle est plus loin. Elle disait qu'au fond, Emmanuel Macron, en ayant cassé la droite et la gauche, en ayant fait quelque chose qui ressemble à une alliance du centre, permet de faire passer ces réformes beaucoup plus facilement que vous, que Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'il disait.
Vous trouvez que ça passe plus facilement, vous, les réformes, quand on s'y prend ainsi? trouvez que ça s'est passé dans le consensus?
C'est la question posée par notre auditeur.
Je ne crois pas du tout. Il y a eu, vous n'avez pas besoin de revenir sur l'actualité, il y a eu aussi des contestations très importantes. Parce que quand vous êtes dans une démarche où vous pensez avoir raison, vous ignorez les contradictions qui viennent parfois du peuple. Donc au contraire, je crois que d'ailleurs le président Macron l'a compris, il essaye de retrouver un lien, une concertation,
de discuter, de rendre les choses horizontales. Vous y croyez ça? C'est bien?
C'est quand même mieux de discuter, c'est mieux de partager un certain nombre de réflexions, de rencontrer les syndicats que de vouloir passer en force. Prenez l'exemple pour rester sur Jacques Chirac. Jacques Chirac, quand il a voulu lui-même passer en force, qu'est-ce qui s'est passé 1995
97, la dissolution.
Et donc ça a été la dissolution, la suite. Et il a voulu passer en force un moment sur le CPE, vous vous rappelez, avec Villepin. Ben finalement, il a renoncé. Et moi-même, quand sur une ou deux réformes, j'ai voulu passer en force, ben on a une réticence. Est-ce que ça veut dire, parce que ça a été évoqué au début de notre entretien, que finalement... on ne ferait plus rien, il n'y aurait pas de réforme possible. Ben, regardez toutes les réformes qui ont été faites par la gauche quand elle a gouverné, par la droite quand ça lui est arrivé. Il y a eu des réformes. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de réforme dans notre pays. Une réforme de droite, il y a eu plusieurs réformes des retraites à droite, Balladur, Fillon, des réformes à gauche, pas simplement sur les questions de société, il y en a eu beaucoup, donc ne laissons pas penser... que la droite, quand elle gouverne, ou la gauche, quand elle gouverne, elle ne réforme pas. C'est pas la même réforme, mais c'est un mouvement.
Alors, je remets en contexte la question de Marie, qui nous vient via l'application France Inter. Le contexte est le suivant. Christiane Taubira, qui était notre invitée il y a quelques jours, a dit que le vide à gauche était dramatique. Elle a dit que s'il fallait quelqu'un pour tenir le gouvernail, pour prendre les rênes en 2022, elle n'en rêvait pas, mais qu'elle serait là. D'où la question de Marie. Soutiendriez-vous Christiane Taubira en 2022 si elle se présente?
Je comprends très bien la disponibilité de Christiane Taubira. C'est une femme pour laquelle j'ai un grand respect et elle a joué un rôle au cours du quinquennat qui est tout à fait précieux. Enfin, on n'en est pas là. Et ce qu'elle évoquait, c'était le vide. Alors oui, faisons attention que le vide ne s'installe pas. Et c'est pas simplement vrai à gauche, c'est aussi vrai à droite. Faisons attention que justement une vie politique tout à fait aseptisé, ne viennent pas créer je ne sais quelle répétition de ce qui s'est déjà produit. Et c'est pour ça que j'appelle plutôt, d'un point de vue de citoyen, à ce que les grandes formations politiques se réinvestissent et reprennent ce que d'autres ont fait. Jacques Chirac, le premier, recréer une force politique, une formation politique, faire du débat, faire de la contradiction, aller auprès des Français. C'est ça la politique.
Mais elles n'existent plus, les grandes formations politiques. Le Parti Socialiste
c'est bien la raison pour laquelle... l'UMP... La raison pour laquelle il faut les recréer, cette nouvelle génération doit prendre cette responsabilité. Il n'y a pas de démocratie sans grande formation politique. Il n'y a pas de démocratie sans pensée politique. Il n'y a pas de démocratie sans idée politique. Et si on veut faire de la démocratie quand il n'y a plus d'idées, quand il n'y a plus de pensée, quand il n'y a plus de formation politique, c'est quoi? Ben c'est le vide. Et dans le vide, ce ne sont pas les démocrates qui gagnent.
Vous n'avez pas parlé de l'incarnation. Il manque aussi, au-delà des idées et des formations politiques, il manque de l'incarnation aujourd'hui. Évidemment, on va vous poser la question, vous allez me dire, c'est pas le jour, mais Bernard Cazeneuve, qui sera notre invité dans quelques jours. Bernard Cazeneuve, vous en pensez quoi?
J'ai beaucoup de sympathie pour Bernard Cazeneuve. Il a été mon premier ministre et je sais qu'il travaille, je sais qu'il publie un livre. Donc c'est bien, mais... une incarnation seule ne peut pas suffire. Quand François Mitterrand, pardon, là on devrait faire l'émission sur Jacques Chirac, mais je vais prendre aussi l'exemple de Jacques Chirac. Quand François Mitterrand recrée l'espoir à gauche, c'est qu'il crée un parti, le Parti Socialiste, et qu'il va lui-même en prendre la tête et il va lui donner un programme. Quand Jacques Chirac, fameux discours d'Aigleton, ça ne dira rien à personne, Aigleton si, j'espère, mais le discours d'Aigleton, 1976, quand il lance le RPR, pourquoi il lance le RPR? Parce qu'il veut qu'il y ait, dans la droite française, un parti qui puisse représenter une conception de la République. Voilà ce que c'est que de faire de la politique.
Thierry vous demande si nous ne sommes pas en train de sombrer dans une sorte d'idolâtrie excessive depuis la mort de Jacques Chirac, idolâtrie paradoxale compte tenu du dégagisme ambiant en politique. François Hollande.
Oui, mais la France, elle est toujours paradoxale. Hein.
On dégage les vivants, on idolâtre les morts.
Elle veut des rois et elle leur coupe la tête. Elle dégage les vivants et sacre les morts. Et elle est aussi bien dans la nostalgie que dans la recherche de la nouveauté. Bon, on est ça en notre propre cerveau, en notre propre sein. Qu'est-ce qui est utile de reprendre dans le passé? Qu'est-ce qui doit être inventé pour l'avenir? Et ça, c'est le cœur même de ce que doit être là aussi la réflexion politique. Qu'est-ce qui est permanent? Qu'est-ce qui vaudra pour toujours? Est-ce que la politique, ça a encore un sens? Mais on fait pas de la politique comme on en faisait dans les années 60. Non, on en fait différemment. Et on ne tient pas l'électeur pour simplement un obligé. On est obligé de le considérer. C'est la démocratie, c'est ce qui a été demandé notamment ces derniers mois. Et puis il faut inventer des politiques. Qu'est-ce que vous voulez? Jacques Chirac, de ce point de vue-là, il avait anticipé avec la maison qui brûlait. Mais aujourd'hui, le sujet sur lequel le débat politique peut se construire, un des sujets, c'est bien sûr l'avenir de la planète.
Merci François Hollande.
Merci à vous.
D'avoir été au micro de France Inter ce matin. Il est 8h48 et le carrefour du 7-9 est devant nous.